Continent Science, Stéphane Delisgorges.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques à 14h tous les jours sur France Culture et dans une semaine particulière puisque tous ces rendez-vous ont une relation avec l'alimentation. Cette semaine est dévolue à l'alimentation dans Culture Science. Et nous, dans Continent Science, eh bien nous allons d'une certaine manière commencer par les débuts, si on peut dire, ou en tout cas un certain type d'alimentation qui va survenir au néolithique, après la grande époque des chasseurs-cueilleurs qui, eux, ont vécu au paléolithique. Et pour cela, avec moi, Margaret Attenberg, Françoise Lemort, Jean-Denis Vigne, qui vont vous parler presque tous de la même île, qui est Chypre, et qui sont tous, bien sûr, alors avec des spécialités particulières, archéologues, on va dire, allez, paléo, quelque chose. On désignera les spécialités plus tard. En tout cas, c'est toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour respecter nos habitudes, bien sûr, avant le début de notre conversation, sur le début de l'alimentation d'un certain type, eh bien, pour respecter nos traditions, la chronique animalière. Dans cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les chauves-souris. Oui, encore une fois, les chauves-souris. Chez ces dernières, et en particulier chez le rhinolophe de Méhélie, c'est pas facile à dire, une voix grave, une voix profonde, si je puis dire, affaiblirait considérablement le succès reproductif de son émetteur. Des scientifiques ont montré que les femelles de cette espèce préfèrent non pas les mâles aux cris graves, mais les mâles aux cris plus aigus, ceux dont les fréquences sont les plus élevés. Ce trait aurait ainsi conduit au fil de l'évolution à l'augmentation des fréquences émises. La plupart des chauves-souris, comme l'on sait, sont nocturnes et ont développé un système extraordinairement performant d'écholocalisation. Elles émettent des cris et se fondent sur les échos renvoyés pour localiser leur proie. Ce système est soumis à une forte pression de sélection de par son utilité pour la survie. Peut-être, malgré tout, il est peut-être influencé par les préférences des femelles. Un tel phénomène, qui avait été qualifié de sélection sexuelle après qu'il ait défini la sélection naturelle, sélection sexuelle donc par Darwin, explique notamment, c'est l'exemple classique, la queue démesurée des paons. Chez les oiseaux, on voit très bien cette différence des attributs sexuels. Et les éthologistes, donc, se sont intéressés à ces rhinolophes de Méhélie, qui vivent notamment au sud de l'Europe et en Bulgarie, car leurs cris d'écolocation sont plus aigus qu'on l'attendrait pour des animaux de cette taille. En outre, plus les cris sont aigus, plus ils sont atténués par l'air, et donc ils portent moins loin, ce qui est le contraire pour la chasse de la proie. Ceux de ces chauves-souris ne seraient donc pas optimaux pour la chasse. Dès lors, les chercheurs soupçonnaient évidemment un impact de la sélection sexuelle sur cette caractéristique. Afin de tester les préférences des femelles, les scientifiques les ont placées dans des enceintes expérimentales où ils ont diffusé plusieurs centaines de cris d'écolocation par deux haut-parleurs. L'un de ces derniers émettait systématiquement des cris plus graves que l'autre. Les spécialistes ont alors constaté que plus un haut-parleur émettait des cris aigus, plus souvent les femelles le choisissaient au détriment de l'autre. Pour confirmer que les hautes fréquences accroissent le succès reproductif, les chercheurs ont mené une analyse génétique au sein d'une population, cette fois sauvage, de chauves-souris, dont ils ont établi les relations de parenté. Ils en ont conclu que les mâles avaient autant, d'autant plus de succès reproductif, que leurs cris étaient plus aigus. Les femelles, donc, je le confirme, préfèrent bien les cris aigus, ce qui conduit à la sélection au fil des générations d'animaux émettant à des fréquences de plus en plus élevées. C'est le premier exemple, mais le tout premier, connu, de sélection sexuelle sur des cris d'écolocation des chauves-souris. Ce problème aurait même inversé la tendance des animaux à produire des cris d'autant plus graves qu'ils sont gros. Les éthologistes ont montré que chez ces chauves-souris, plus le mâle est grand, plus il est massif, plus ses cris sont aigus. Et en choisissant les hautes fréquences, les femelles s'accouplent donc avec les compagnons les plus robustes et aux cris les plus aigus. Bonjour Margaretha Tenberg.
Bonjour.
Bonjour Françoise Lemoir.
Bonjour.
Bonjour Jean-Denis Vigne.
Bonjour.
Je dois le dire tout de suite, comme ça, ça va faire une espèce de familiarité, si l'on peut dire, puisque un jour j'ai appris qu'il y avait des éléphants nains en Sicile qui faisaient 1m10 au garrot et qu'on pouvait voir leur squelette, un mâle, une femelle et une petite, un juvénile, au musée archéologique de Naples, hein, je crois.
De Catane.
De Catane, voilà. Des éléphants de 1m10 au garrot, voilà, quelle belle histoire. Alors on va voir après que vous allez nous emmener vers des faunes encore, même s'il y aura des éléphants aussi, encore plus étonnantes. Mais nous voilà donc, d'une certaine manière, au début donc de cette série d'évolués à l'alimentation. Et bien nous commençons pratiquement par le début. Sauf que, évidemment, nous allons nous concentrer principalement sur le néolithique. Mais évidemment, au paléolithique, Homo sapiens sapiens mangeait déjà, bien sûr. Mais il était chasseur, je vais y arriver, cueilleur. Comment est-ce qu'on peut, Jean-Denis Vigne, définir ce chasseur-cueilleur ? Il était donc sans domestication d'aucune sorte, ni plantes ni animaux.
Ah, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
Alors,
disons que il faut bien distinguer la domestication,
oui,
du mode de vie. En d'autres termes, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, il y a de cela 15 à 12 000 ans,
oui,
ont domestiqué le chien,
oui,
qui est l'animal domestique des chasseurs, sans pour autant changer leur mode de vie.
Oui.
Peut-être qu'ils ont domestiqué plein d'autres choses. Je pense en particulier à des plantes,
oui,
pour lesquelles nous n'avons pas d'indices. Mais le fait est que cette capacité à domestiquer est un comportement, je dirais, biologique. Hein. Il y a d'autres espèces que l'homme qui s'associent dans une relation mutualiste avec un animal. Il n'y en a aucune qui fabrique des selles et des morts pour... voilà, vous comprenez. Bon, la domestication, elle a différents degrés. Mais c'est peut-être un comportement fondamental d'Homo sapiens, voire d'Homo, j'en sais rien,
oui,
qui est mis en application dans certaines circonstances, sur certaines espèces, et il se trouve qu'avec la transition néolithique, qui est là un vrai changement de mode de vie, qui, oui, engage beaucoup plus que la domestication des animaux, mais il se trouve que la domestication, là, est mise à contribution dans une évolution massive de l'humanité, même si elle est très lente et progressive, comme un élément moteur, majeur, du changement de mode de vie, c'est-à-dire la naissance de l'agriculture et de l'élevage.
Alors on y reviendra bien sûr, mais il y a en tout cas une sorte de familiarité, de commensalisme. Domestication, je ne sais pas, vous allez le dire, Jean-Denis Vigne, vis-à-vis donc du chien qui est le descendant ou le loup domestiqué par l'homme ou compagnon de l'homme qui donc est le chien. Ça c'est clair et net, on verra après le détail chronologique, mais tout d'abord, et on verra les raisons qui font que il y a ce commensalisme réciproque extrêmement puissant, hein, puisque certains vont même jusqu'à dire qu'il y a presque une coévolution de l'homme et du singe et du chien, pardon. Alors s'il fallait former, et là c'est une question que je vais vous proposer en faisant un tour de table. Une fois bien établi, on y reviendra peut-être un petit peu sur cette césure, hein, qui va marquer donc le paléolithique supérieur, hein, comme vous venez de le dire, Jean-Denis Vigne, et l'arrivée du néolithique. Le néolithique, ça veut dire que c'est la pierre polie, hein, grosso modo. Hein, c'est le moment où...
C'est comme ça que ça a été défini initialement, oui, oui. Parce que c'est ce que les archéologues ont remarqué en premier lieu. Mais je dirais que le mot a beaucoup, enfin le concept a beaucoup évolué. Depuis le moment où il a été défini il y a plus de deux siècles. En particulier, maintenant, les éléments forts de ce changement de mode de vie, c'est non seulement l'élevage et l'agriculture, c'est aussi une industrie lithique un peu différente.
Oui.
Ça peut être dans certaines régions la poterie, mais pas dans toutes. Mais c'est surtout des faits de société, des changements démographiques, changements d'organisation sociale, de mobilité dans le territoire. Donc tout un cortège de... C'est pas seulement la pierre polie, quoi.
D'accord. Alors, Margaret Attenberg, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous prendriez, puisqu'il y a évidemment... À l'ordinaire, on se dit croissant fertile, Turquie, en tout cas Proche-Orient à tout coup, c'est l'endroit où il y a l'explosion, la novation, la césure, l'avènement du néolithique. Ça n'est pas vrai?
Si, c'est vrai aussi, mais pas seulement le Proche-Orient. Alors, le Proche-Orient est souvent pris comme exemple parce que c'est cette région-là qu'on a étudiée en premier. Et c'est là aussi qu'on a les traces les plus anciennes de domestication des animaux, de domestication des plantes et des phénomènes de changement de société dont Jean-Denis a parlé. Mais ce n'est pas le seul foyer de domestication. Il y en a, la recherche identifie près d'une dizaine de foyers par le monde. Donc, on a aussi la Chine, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique moyenne et bien d'autres, où il y a eu ce phénomène de domestication, de changement dans la relation entre les sociétés humaines et les plantes et les animaux au cours de l'Holocène.
On peut évidemment distinguer les deux. Vous avez dit l'Amérique moyenne, les animaux qui ont été en particulier, mais on le verra avec Jean-Denis Vigne dans un instant, qui ont été domestiqués dans le cas de l'Amérique du Sud, sont un peu différents. J'ai été étonné de voir que pour l'Amérique du Nord, c'était le dindon.
Oui, c'est
on
ça.
On a commencé par... Alors, vous ajouteriez quoi à ce tableau, Françoise Lemort? Parce que vous allez évidemment vous parler des pathologies, entre autres, des conséquences de l'alimentation dans cette ou par cette révolution néolithique.
Oui, alors en fait, j'ajouterais deux points. D'une part, effectivement, que bien sûr, les changements de mode de subsistance ont entraîné des modifications dans l'alimentation et donc des modifications dans l'état sanitaire des populations. Mais Jean-Denis l'a dit tout à l'heure, le néolithique, c'est aussi un changement dans les sociétés et l'étude des pratiques funéraires nous permet de voir des changements importants qui se sont effectués au cours du néolithique. Les pratiques sont, on va dire, globalement beaucoup plus diversifiées qu'au cours du paléolithique.
C'est ça. Et là, il y a un nom, évidemment, puisque vous devez donner des noms à vos disciplines par rapport aux objets. Il s'agit de l'archéothanatologie.
Oui, disons que l'archéothanatologie, c'est effectivement l'étude des pratiques funéraires, on va dire. C'est en gros l'archéologie funéraire, c'est une partie de ce qu'on appelle maintenant l'archéo-anthropologie.
C'est ça. Alors, pour poursuivre ce tour de table, Jean-Denis Vigne, il y a grosso modo, il y a deux endroits où ça marche pas. C'est-à-dire que l'Océanie, il n'y a pas de vrai foyer de départ, hein, ça viendra plus tard, non?
Oui, oui, mais...
Le Pacifique aussi.
Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ce phénomène de transition néolithique s'inscrit dans une longue évolution de l'espèce. Et que, évidemment, cette espèce, elle est partie d'Afrique. Françoise dirait mieux que moi quand et comment, mais c'est pas le sujet, là, en l'occurrence. Elle s'est étendue au monde entier, mais cela de manière très hétérogène. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, effectivement, Homo sapiens, c'est une espèce invasive. Espèce invasive, ça veut dire qu'elle conquiert des espaces. Et pour conquérir des espaces, faut qu'elle ait un moteur démographique. Donc, c'est une espèce qui est en constante augmentation démographique, de manière irrégulière, avec des arrêts, des retours, etc. Mais je dirais qu'il y a une trajectoire sur la très longue durée. Et il est bien évident que le facteur démographique intervient dans cette transition néolithique. Et c'est sans doute pas le seul, bien sûr, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il intervient. Et évidemment, il y a des zones où le facteur démographique est moins prégnant que d'autres. Vous évoquiez là des régions où la démographie, durant les périodes qu'on évoque pour le Proche-Orient, hein, des périodes qui sont de l'ordre de plusieurs milliers d'années avant l'actuel, le facteur démographique est sans doute beaucoup moins fort dans ces conditions-là. Donc ça, je pense que c'est un des éléments de réponse.
Alors, il y a évidemment aussi une question d'ordre général, mais je suis quand même qui est la suivante, c'est que pourquoi c'est aussi tardif ? Bon ben, ça suit le tempo de la diaspora humaine sur la planète, bien évidemment. Dans ce cas, c'est ce qu'on
bien
peut
sûr,
considérer.
Bien sûr, hein, tout à fait. Tout à fait. Oui.
Et en tout cas, ça va fonctionner comme ça. On peut peut-être faire un petit rappel là encore chronologiquement. Alors maintenant, je suis un peu embarrassé pour les dates, puisque généralement on admettait, je crois que vous l'admettez tous, grosso modo, l'avènement du sapiens, homo sapiens sapiens à 300 000 ans, c'est ça, hein ? Et un nouvel article de Science, alors, vous êtes dans l'expectative, je sais que c'est toujours, ces datations sont complexes, mais voilà un article récent de Science qui dit 400 000, ouh là là, alors quel bond en arrière, passons. Là encore, vous levez vos mains en disant, et vous faites des mous de dubitation, voilà comment est-ce qu'on peut les appeler.
France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges.
Margaretha Attenberg, alors, évidemment, la première question, c'est que pour qu'il y ait domestication, et dans votre cas, on va parler des plantes,
oui.
La première chose c'est que qu'il faut remarquer, c'est que dans l'environnement de ces chasseurs-cueilleurs qui précèdent cet autre moment du développement de l'anthropologie, il faut qu'il y ait la présence dans le foyer. Évidemment, c'est plutôt la présence qui fait le foyer, la présence de plantes domesticables.
Voilà. Alors, il y a la présence, évidemment, de ces ancêtres, ce qu'on appelle les ancêtres sauvages, des plantes qui sont ensuite domestiques et domestiquées. Et ce qu'on remarque généralement, ce qu'on on voit par la science, c'est qu'il y a une très longue cohabitation et une utilisation déjà très ancienne de ces ressources qui vont être domestiquées à un moment ou à un autre dans l'histoire. Mais ces espèces de plantes ne sont absolument pas inconnues pour les populations. Elles ont été exploitées, utilisées, consommées pendant des périodes très longues souvent, avant leur propre domestication. Et voir ces espèces ont été cultivées aussi, et d'abord cueillies, ensuite cultivées, et ensuite domestiquées. Et tout ça se passe sur une très longue période, souvent ce qu'on voit au Proche-Orient, notamment par les travaux de George Wilcox et Kenichi Tanno, que c'est un processus qui dure plusieurs millénaires.
Plusieurs millénaires, Margaretha Attenberg. Hein,
oui, voilà.
Ouais, et oui, vraiment, c'est un processus lent. Alors, pour faire comparaison, parce que je connais un peu, j'ai regardé, parmi les populations, et malheureusement d'ailleurs, parmi les populations qu'il reste de chasseurs-cueilleurs, un des groupes importants, c'est les Yanomami. Je les prends comme exemple parce qu'ils ont une pratique de chasse, bien sûr, mais ils ont une pratique de jardinage, on peut dire. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment agriculteurs, mais ils font attention à un certain nombre de bananiers, par exemple, qui sont autour. Et puis après, ils vont se déplacer, puisque de toute façon, c'est un nomade, le chasseur-cueilleur. Et quand la ressource va partir, eh bien, il va reformer son habitation et aussi son jardin. Voilà. Est-ce que ça, c'est une bonne image qu'on peut garder ?
Oui, c'est une image très intéressante, parce qu'en fait, ça montre que la domestication, ce n'est pas un concept simple. On parle de domestication en archéobotanique, qui est ma spécialité, parce qu'on voit des changements morphologiques chez les plantes. Mais en fait, on peut parler aussi de domestication des paysages, des ressources, qui n'a pas une expression morphologique très facile à distinguer. Et il y a, depuis l'aube des temps, chez les populations aussi de chasseurs-cueilleurs, une gestion des ressources, des pratiques qui mène pas forcément à une domestication morphologique, mais qui mène à une gestion de ces ressources et une influence sur ces ressources.
Alors si on les regarde, on va prendre peut-être celles qui sont les plus exotiques et puis on donnera des détails. Mais la domestication des plantes, dans grosso modo, ce qui correspond à la partie de la Chine actuelle, hein, vous donnerez exactement... Margaret Attenberg, la dimension de l'air considéré, mais c'est le millet, le riz, et puis parmi les animaux, on verra après, donc il y a le poulet, le bœuf, on le verra avec Jean de Divine, mais c'est donc le riz, très tôt.
Oui, alors le riz, on sait maintenant par les études génétiques, notamment que le riz a été sans doute domestiqué plusieurs fois. Et on distingue deux foyers de domestication, l'un dans le bassin de Yangtze, donc dans le fleuve bleu, et ensuite un autre foyer de domestication, très certainement autour du bassin du Gange en Inde, avec deux domestications à partir d'une même ancêtre, un même ancêtre sauvage. Alors, il y a un débat assez important sur la date de la domestication. On a eu des dates très anciennes pour la Chine, mais qui ont été controversées. Donc, on ne peut pas dire exactement quand ça s'est fait, mais on a des sociétés en Chine qui néolithiques qui dépendent du riz, de la culture du riz, qui sont ensuite domestiques pleinement ou sauvages, mais qui datent du 6e millénaire avant notre ère, donc dans le bassin de Yangtze.
Est-ce qu'on doit toujours, Margaret Attenberg, considérer que, parce que tout à l'heure, Jean-Denis Vitt, vous avez dit d'un mot céramique, hein, je crois, poterie, évidemment, il y a une question de stockage.
Hein, oui.
C'est absolument nécessaire. Quand on fait pousser du blé, voire du riz, eh bien, il faut le conserver.
Oui.
Il faut le conserver toute l'année, hein, pour aller jusqu'à la récolte prochaine. Donc, est-ce que dans ce puzzle très compliqué qui est donc ce tableau de la néolithisation, il faut suivre aussi minutieusement l'histoire de la céramique, grosso modo, qui finira par des poteries?
Oui. La céramique est quelque chose qui est associé au néolithique, mais pas systématiquement. Donc, on n'a pas forcément céramique en même temps que la néolithisation. Il y a certains contextes, comme en Asie, en Chine, par exemple, où il y a de la céramique qui apparaît bien, bien avant le néolithique, qui peut être très, très ancienne. Il y a des cultures où on n'a pas de la céramique, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de stockage, parce que le stockage peut se faire tout à fait autrement, dans des silos, par exemple. Donc, il y a d'autres cas de figure. Et par exemple, au Proche-Orient, sur le site de Djerf el-Ahmar, qui a été fouillé par une équipe française sous la direction de Daniel Stoder, il y a des lieux de stockage, il n'y a pas encore de la poterie, mais il y a des lieux de stockage avérés sur ce site. On stocke des plantes sauvages, mais déjà cultivées.
Alors c'est une question, c'est une petite incise d'une certaine manière, mais pour poursuivre cette histoire, cette question du stockage, je me souviens d'un livre très singulier d'un anthropologue qui a eu un itinéraire très intéressant et qui nous a quittés, qui s'appelle Jean Testard, et qui avait écrit un ouvrage très très étonnant et qui contredisait, ou en tout cas nuançait l'idée de l'association immédiate. Parce que les choses ont beaucoup changé, elles changent très vite, hein. Les considérations scientifiques, vous trouvez beaucoup de choses et qui modifient les idées. Il s'agissait d'une population donc de la façade ouest américaine, d'Amérindiens, qui était dans une proximité, donc c'était des pêcheurs majoritairement, hein, presque essentiellement même, et qui étaient chasseurs-cueilleurs. Donc dans ce cas-là, c'était pêcheurs-cueilleurs, on va dire. Et qui avaient trouvé des moyens extraordinaires, avec le saumon, de le faire sécher. En fait, ils le boucanaient, si je puis dire, appliqué au poisson, au saumon, des volumes extraordinairement importants de ce poisson, à tel point qu'on peut même dire que entre différentes tribus d'Amérindiens, il y avait déjà les pratiques du don, et on connaissait pas de disette avec cette manière, et en particulier aussi que elle a autorisé un certain développement démographique. Donc c'est simplement pour compliquer les choses, pour dire justement que le stockage est nécessaire ou conditionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, et les uns et les autres, Margaret Attenberg?
Oui, le stockage aussi, on trouve dans des contextes très agricole, évidemment, et aussi des plantes. Vous avez donné un exemple d'animaux, mais on a aussi le stockage, par exemple, de glands de chêne, de noisettes, etc., qui étaient des ressources lipides ou très énergétiques, qui étaient stockées aussi, par exemple, dans les cultures de yomon au Japon, mais aussi dans d'autres contextes, aussi en Europe du Nord, avec les noisettes, par exemple.
Un petit mot, Françoise Lemort, là, sur cette question, non ?
C'est pas votre sur la question du stockage, il n'y a pas d'éléments qui soient en lien avec les pratiques funéraires.
Oui,
et
sûr.
En ce qui concerne l'état de santé des sujets non plus, si ce n'est que, bien sûr, le fait de stocker peut éviter des périodes de famine et donc et de carences.
Alors un petit mot, Jean-Denis Vigne, je me tourne vers vous, pour puisque Margaret Attenberg vient de citer le nom, il y a cette civilisation c'est une civilisation nippone, c'est d'ailleurs la première qu'on voit au Grand Musée National du Japon, dans la salle de droite quand on rentre, c'est ces Jomon qui sont connus pour leur poterie, magnifique, leur statuette. Magnifique, pour des grands tumulus de pierre aussi. Et là, ils sont très en avance pour les poteries, non ? Ils sont étranges, alors, ceux-là. Est-ce qu'on sait grand-chose ?
Oui, bien sûr. Ils sont très en avance par rapport au continent proche, c'est-à-dire à la Chine. Non, pas réellement en avance, puisque, en fait, la poterie, la céramique, les pots en céramique, apparaissent
POT.
Voilà. apparaissent aux alentours de 15-20 000 il y a 15 à 20 000 ans en Chine. On les connaît aussi en Asie centrale assez longtemps avant le début du néolithique. Et du coup, on les connaît aussi au Japon dans des contextes qui sont légèrement plus récents quand même que ces contextes chinois dont je viens de parler. Donc il y a en Orient, en Extrême-Orient et en Asie centrale, toute une zone où la céramique, en tant qu'objet de stockage, oui peut-être, mais pas uniquement, à vrai dire on ne sait pas tellement, est apparue très tôt et je dirais presque indépendamment du processus de néolithisation.
D'accord, oui.
Alors, elle se développe de manière, je dirais, extraordinaire hein, au Japon, comme toujours dans les domaines insulaires où on a des choses tout à fait inattendues.
Oui.
On a ces céramiques Jomon extraordinaires qui se développent, je dirais, aux alentours de 4000, 3000 avant Jésus-Christ, à une époque où en Chine, on fait de l'agriculture depuis déjà 2000 ans, comme Margaretha l'a souligné. Où on fait des céramiques absolument splendides, moins extravagantes, c'est vrai, mais absolument splendides, techniquement absolument remarquables. Et donc, finalement, ça a rien de très extraordinaire au niveau chronologique. Ça a quelque chose d'extraordinaire en tant que, finalement, expression d'une insularité culturelle, ces céramiques Jomon. Parce que le Japon ne va entrer dans le néolithique que plus tard.
D'accord.
C'est-à-dire il y a 2000 ans, en gros. Hein, il y a 2000 ans, quoi.
Alors Margaretha Attenberg, on va continuer, on va poursuivre rapidement notre petit tour avant d'arriver au point focal. Vous avez eu tous le même mot, hein, notre point focal, enfin votre point focal à vous trois, et ben ça va être l'île chypriote. Hein, donc en tout cas, Nouvelle-Guinée, taro, banane. Bon, vous faites un commentaire dès que vous le voulez. Hein. Afrique, peut-être, sorgho, mil.
Oui, tout à
bon.
Fait, oui.
Mexique et Andes, alors là c'est le maïs,
les haricots,
et les courges.
Et les courges, voilà.
Et pas de tomates, parce que c'est chez eux qu'on va aller piquer la tomate.
Oui, ce qui va venir plus tard, parce qu'en fait il y a des domestications anciennes, il y a des domestications qui sont intervenues plus tardivement, qui suivent, il y a toute une série de domestications et qui continuent encore actuellement.
Oui, et qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour être pas exhaustif, mais dans ces différents foyers, on n'a rien oublié. C'est à peu près donc.
Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Il y a beaucoup de foyers, beaucoup de choses à dire, évidemment.
Alors, Choisissez-en une.
Oui, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est dans les vagues de domestication, il y a des domestications qui interviennent beaucoup plus tardivement, plusieurs millénaires après la domestication des céréales et des légumineuses, c'est la domestication des arbres fruitiers, et qui jouent un rôle très important dans la région méditerranéenne, notamment la vigne, l'olivier, le palmier dattier au Moyen-Orient, le figuier. Et ça, c'est quelque chose qui suit d'autres règles, si on peut dire, et quelque chose qui vient s'ajouter et qui joue un rôle évidemment très important dans l'alimentation, qui contribue à l'alimentation méditerranéenne. Et ensuite, il y a d'autres espèces qui suivent le même processus dans d'autres régions.
J'espère qu'on pourra revenir d'ailleurs au dattier, parce que c'est d'importance, hein, en tout cas. On peut aussi décrire d'une certaine manière, je ne sais plus dans quel de vos articles j'ai lu la chose, mais il y a aussi une pratique toute simple. Par exemple, les oliviers. Il n'y a pas d'abord une domestication active par principe. Simplement, on fait des brûlis, on fait des nettoyages. Et petit à petit, eh bien, on constitue une espèce de grand verger d'oliviers qu'on n'a pas planté.
Oui, tout à fait. Et ça fait partie des pratiques de gestion dont j'ai parlé tout à l'heure. On favorise des espèces et on les exploite, et une sorte de glissement vers quelque chose de domestique, mais qui n'est pas très fixe, moins fixe que les céréales et légumineuses, par exemple.
On peut retenir, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a que je ne connaissais pas, en particulier les amidoniers, donc vous m'avez appris que c'était...
Un blé qu'on peut décrire comme primitif ou archaïque, c'est un des premiers blés avec l'engrain qui a été domestiqué au Proche-Orient et qui est cultivé actuellement encore un tout petit peu, mais de façon qu'on peut appeler relictuelle. Ce n'est pas un blé qui est important par rapport au blé froment, par exemple.
Voilà, allègrement, en tout cas trop rapidement, comme toujours, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science dans cette semaine dévolue à l'alimentation, et toujours en compagnie de Margaretha Attenberg, Françoise Lemort et Jean-Denis Vigne. Et avec cette question qui vient de Laetitia Coya, qui réalise cette émission aujourd'hui, quels étaient les engrais? Elle s'adresse à vous, cette question, Margaretha Attenberg.
Oui. Alors, pour les périodes les plus anciennes dans ces foyers domestiques, on ne connaît pas vraiment, on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Mais pour les sociétés d'agriculteurs pasteurs, parce que par exemple en Europe et au Proche-Orient, c'était, et en Chine aussi, c'était des agriculteurs pasteurs. Il y a l'utilisation du fumier, ça c'est l'or noir, mais même jusqu'à des périodes récentes pour ces sociétés.
Alors, nous voilà partis où nous abordons plus exactement dans une île à 70 km, grosso modo, hein, 65-70 km des côtes turques.
Oui, au plus court.
Au plus court, oui, au plus court. Et c'est une île bien singulière parce que, je vais le dire encore parce que ça me fait plaisir de dire, je ne sais pas pourquoi, parce que je rêve de les voir, enfin, j'aurais rêvé de les voir. Il y avait des éléphants nains, mais c'est pas seulement cette faune extraordinairement exotique, ces éléphants sont venus du continent, et c'est par ces phénomènes d'insularité que petit à petit, avec l'environnement, alors qu'un éléphant normal mange à peu près 100 kilos de viande par jour, un éléphant d'Afrique, bien, il a diminuer sa taille par rapport à l'alimentation. Mais, et voilà l'autre surprise, des hippopotames nains. Et l'homme a croqué l'hippopotame nain.
Oh, ça, c'est une question. Justement, c'est une question. C'est vrai que le plus ancien site archéologique qu'on connaisse à Chypre a été interprété initialement comme la preuve d'une contemporanéité entre les derniers hippopotames nains et les premiers épis paléolithiques ayant fréquenté l'île. Il y a un gros débat, ça fait 25 ans qui dure. Il y a encore des articles qui sont en cours d'élaboration et des analyses, etc. J'en dirai pas plus aujourd'hui, mais on pourrait se revoir longuement sur cette question, parce que le débat n'est pas clos, et moi-même, je n'ai pas un avis complètement arrêté sur cette situation.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est l'homme qui a entraîné l'extinction, si même l'homme a jamais rencontré un éléphant nain. La seule chose que je sais, parce que ça on l'a démontré grâce aux travaux qui ont été initiés sous la direction de Jean Guilaine dans le cadre de la mission française Néolithisation, il y a maintenant 25 ans, hein, au début des années 90, c'est que, eh bien, juste après, ou peu de temps après quand même, l'extinction de ces hippopotames et éléphants nains, on voit apparaître à Chypre, qui était un milieu où il n'y avait plus de grande faune, hein, on voit apparaître à Chypre des petits sangliers. Mmh. Eux aussi petits, mais ce sont bien des sangliers. Introduits, très vraisemblablement par l'homme, parce que la probabilité de traverser 70 km à la nage dans une direction particulière,
Pour un suidé,
n'est pas nul, mais qu'il le fasse avec une compagne ou avec un compagnon, ou que la femelle soit une championne de natation, et en même temps qu'elle porte 6 ou 7 petits dans son ventre, etc., etc., je ne développe pas. On voit bien que la probabilité pour que l'homme ait introduit cette espèce sur l'île de Chypre est très forte, et en même temps, on le voit bénéficier de cette introduction, l'homme, puisque le sanglier se met à proliférer partout,
et les
peu de chasseurs qu'on connaît pour les périodes ultérieures se nourrissent de ces sangliers.
Oui.
Donc il y a là quelque chose qui est tout à fait étonnant, comme vous le disiez, dans le contexte chypriote, mais qui pour l'histoire de la domestication est fondamental. C'est la première fois qu'on arrive à vraiment mettre en évidence de manière, je dirais, aussi forte, le contrôle d'animaux sauvages avant le néolithique. Là, on est avant le néolithique. On est aux alentours de 10 500 avant Jésus-Christ, voire un petit peu avant. Le néolithique, il démarre sur le continent. L'agriculture dont parlait Margaretha tout à l'heure, de pré-domestique, elle est aux alentours de 9 500 avant Jésus-Christ. Donc on a un gros millénaire entre les deux. Et là, on a déjà des gens qui manipulent les animaux, les plantes aussi sans doute, hein, mais qui manipulent des animaux, qui les transportent sur un territoire où il n'y avait pas beaucoup à manger, et puis qui peuplent ce territoire et qui s'en nourrissent pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années.
Ce qui veut dire, Jean-Denis Vigne, qu'ils avaient donc déjà un certain art technologique de la navigation. Hein.
Alors, évidemment. De la navigation, oui, sans doute, parce que, remarquez, transporter des petits cochons, c'est pas très très difficile.
Oui.
C'est un millénaire et demi plus tard que l'introduction des premiers bovins domestiques nous pose des vrais problèmes.
Oui.
Parce que transporter un bovin, alors on dit, oh, il suffit de prendre un petit veau. Bah oui, mais un petit veau, il est pas sevré. Comment? Il faut avoir la vache avec, ou alors... Mais il faut avoir un bateau un peu plus gros et puis mettre la vache sur le bateau. Ben non, ça suffit pas, parce que si vous immobilisez une vache sur un bateau pas trop gros, au bout de du voyage, qui va durer quand même de nombreuses heures, hein, parce qu'on n'est pas des hors-bord là, hein. La vache, elle va pas se relever, parce que un gros ruminant a besoin de bouger pour évacuer les gaz, la quantité de gaz considérable.
Oui, pendant sa rumination.
Donc on a un vrai problème, et on imagine des bateaux costauds.
Oui.
Ou alors des subterfuges du genre « je fais nager la vache à côté du bateau ». Vous voyez, on est dans l'imaginaire, oui, on n'a pas de données. Mais c'est une prouesse, ça c'est certain.
Alors il y a un autre animal qui nous est cher, hein, sur l'ensemble de la planète, et qui va être très tôt domestiqué, c'est le chat. Et curieusement d'ailleurs, le chat... On a là encore focus avec point focal sur Chypre. Eh ben, ils sont venus aussi avec leur petit minou.
Oui, oui, oui. Et là, on est beaucoup plus dans l'histoire de l'agriculture. J'ai dit tout à l'heure que le chien, c'est l'animal domestique des chasseurs. Le chat, c'est l'animal domestique des agriculteurs.
Des planteurs de blé.
Et voilà, des planteurs de blé et des gens qui mettent en réserve des céréales, mises en réserve qui attirent dans ces premiers hameaux ou même dans les premiers villages néolithiques. Tout un tas de petits rongeurs,
la jante murine qui guette
et puis qui s'adapte très vite, y compris à Chypre où il y a une souris endémique qui a vécu pendant longtemps avec les hippopotames et les éléphants et qui s'adapte tout de suite à cette situation, qui pénètre dans les villages. Et du coup, tout ça, ça attire aussi des petits carnivores. Alors on voit une hausse sur le continent, au moment des premières agricultures, on voit une hausse de la présence du renard, du chat, d'autres petits carnivores. Et finalement, c'est le chat qui tire son épingle du jeu, parce que c'est lui qui est transporté à Chypre, le premier. On le voit apparaître il y a 10 800 ans à Chypre, avec les premiers indices d'agriculture sur cette île, les premiers villages. C'est le moment où on va avoir besoin de cette aide, finalement, de lutte contre les rongeurs. Oui. Et c'est là que va se nouer l'histoire avec le chat, à travers le mythe de Tom et Jerry, qui est déjà présent à l'époque. Oui. Hein, c'est le chat et la souris, c'est intimement lié, mais surtout avec l'agriculture, qui est le fond de l'affaire.
Petite parenthèse, parce qu'après on va venir à la liste, et malheureusement, il faudra là encore presser le pas. Mais petite parenthèse, le chien est ami de l'homme, et en plus il suffit d'imprégnation, et après on le voit avec l'explication que donne Pierre Jouventin de sa cohabitation dans une famille avec une louve, ce qui s'est passé est absolument extraordinaire. Le chat est un gros malin, parce que on peut par exemple comparer avec ceux qui ont adopté la genette, magnifique animal, qui l'ont domestiqué d'une certaine manière, mais c'est un animal strictement diurne. Nocturne, pardon. Et donc, il dort tout le temps la journée. Il n'est pas franchement intéressant. Hein. Alors que il modifie un petit peu ses temporalités ou sa chronologie, le chat, pour dormir, faire des petits sommes pendant la journée, alors qu'il est aussi lui, presque majoritairement nocturne. Mais ça devient un bon compagnon, mais qui vit sa vie alors lui. Hein. Il est tout,
oui. C'est un exemple tout à fait intéressant qui relativise cette relation de domestication, ou plutôt qui relativise la part d'intentionnalité de l'homme dans cette relation. On a eu trop tendance pendant les 30 ou 40 dernières années à considérer que la domestication, c'était d'abord une décision de l'homme.
Oui.
C'est d'abord un rapprochement écologique entre deux espèces qui peut avoir pour cause la collaboration pour la chasse, ou même la compétition pour la chasse avec le loup, qui peut avoir pour cause, on va finalement cueillir des plantes, ou ce rapprochement un peu fortuit finalement et imprévisible entre le chat et l'homme, parce que l'agriculture est née. Et finalement, l'intentionnalité de l'homme, elle intervient en second lieu. Et on peut se demander, on pourrait se demander, en inversant la perspective et avec un peu d'humour, si l'intentionnalité la plus forte n'est pas celle du chat.
Eh oui.
Si c'est pas le chat qui a domestiqué l'homme.
Mais oui,
parfois,
c'est lui qui l'a. Mais oui, c'est un gros malin.
On a l'impression que c'est le cas.
Mais oui, c'est un gros malin. Il fait ce qu'il veut. Il garde une indépendance totale et il peut devenir un chat arrêt. Hein. D'ailleurs, curieusement, à Chypre, on mangeait du renard et on mangeait du chat féral. Hein.
Oui, mais... alors féral, pas nécessairement.
Pas parce nécessairement, que
vous savez, cette relation initiale avec les animaux, faut se mettre finalement dans l'idée que ces groupes humains, même s'ils sont néolithiques, ce sont encore des groupes humains qui ont une mentalité de chasseur.
Oui.
Ils ont une perception de l'animal qui n'est pas celle très ethnocentrée que nous avons maintenant. Ces chats, ils sont là, dans le village, ils servent. Quelqu'un les a apportés, mais cette conscience n'existe pas forcément dans la mémoire des villageois. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là pour éventuellement devenir un animal de compagnie. J'ose employer le mot, parce que sépulture qu'on a trouvée à Chypre évoque un peu cette possibilité.
Et toutes ces momies de chat dans la civilisation égyptienne.
Oui, bien sûr. Mais ils sont là. Ils sont là aussi pour amuser les enfants qui vont aller chasser et les manger. Je parle des enfants, ça peut être des adultes. On ne connaît pas les contextes. Mais il n'y a pas de statut très tranché. Comme nous pouvons en avoir aujourd'hui.
En Italie, on a mangé, je ne sais pas encore si ça dure, mais en Italie, on a mangé le chat, hein, on mange le chat en Italie du Nord, possiblement, paraît-il. Hein. Alors, chèvre, mouton, bœuf, porc. Si on passe de l'autre côté, zébu, et de l'autre côté, là, je traverse les mers rapidement, et je répète à nouveau, lama, alpaca, cheval, chameau. Cheval, c'est très tardif, 4000 ans...
Oui, c'est tardif, mais dans le processus de transition néolithique de l'Asie centrale, c'est là aussi un phénomène extrêmement intéressant. Le cheval est un gibier depuis très longtemps dans toute cette région, du moins depuis que les temps glaciaires ont libéré la région d'une certaine manière. Et ce cheval, finalement, il devient domestique, non pas seulement pour la monte ou pour tout ce qu'on sait du cheval, mais et c'est ça qui est amusant, pour la production, l'exploitation du lait des juments. Mm-hmm. C'est finalement la preuve de domestication du cheval qu'on a pour cette période aux alentours de 4000-4500. C'est l'utilisation du lait, bien sûr l'utilisation de mors qui n'étaient pas forcément utilisés comme on les utilise maintenant. Donc voilà une domestication qui apparaît tardive par rapport à celle du bœuf, du mouton, du cochon, mais qui est de nature complètement différente puisqu'elle intervient chez des peuples qui ne sont pas sédentarisés, qui vont rester mobiles pendant très longtemps. Et ce cheval occupe une fonction complètement différente de celle qu'occupent les bovins ou les porcins au Proche-Orient.
Toute petite parenthèse rapide, puisqu'il va falloir arriver maintenant à la qualité de la nourriture et aussi aux pathologies qu'elle apporte, et nous tourner donc vers Françoise Lemort. Dans le cas donc du lait, c'est évidemment, grosso modo, le petit sapiens sapiens est capable de faire la lactase et cette enzyme qui permet de la dégradation du lactose. Bon, d'autres populations, certaines populations vont maintenir ça au-delà de l'adolescence. Et puis d'autres, non, pas du tout, ils sont pas équipés pour. Alors, est-ce que là encore, ça a été important de dessiner, est-ce qu'ils ont été favorisés au néolithique, ceux qui étaient équipés génétiquement de cette chose Parce que le lait...
C'est une situation qui est complexe et qu'on commence à mieux comprendre, mais ce qu'on comprend surtout, c'est que on ne pourra pas répondre à cette question si on ne connaît pas mieux comment le lait était consommé. Parce que finalement, cette consommation du lait ne peut avoir joué comme une pression de sélection et comme à l'acquisition, l'augmentation de la prévalence du gène de la lactase, que si les gens consommaient du lait liquide de manière relativement massive. Or, on sait depuis moins de 2 ans que la transformation du lait en fromage était réalisée, effectivement, dès les tout débuts du néolithique d'Europe centrale. Je tends à penser que ça a été le cas, même plutôt au Proche-Orient et dans le bassin méditerranéen. Donc finalement, la pression sur l'alimentation, là, elle est beaucoup moins forte. Alors maintenant, on se demande même comment et pourquoi, dans certaines populations, celles de l'Europe du Nord en particulier, de Scandinavie en particulier, s'est développée cette aptitude à conserver l'usage de la lactase à l'âge adulte, parce que on voit bien que le lait a surtout été consommé sous des formes où, finalement, il présentait pas de
problème
de digestion.
Voilà. Oui, pour aller vite, oui, voilà. D'accord. Françoise Lemort, est-ce qu'on peut de façon générale dire, parce qu'on a une première image, plutôt le préalable, c'est ça, chasseur, cueilleur, robuste, 1m80, costaud, pas de caries dentaires, et une population donc saine en général, hein, d'après ce que l'on peut voir. Et puis, expansion démographique, bien évidemment, après l'apparition de la domestication des plantes et des animaux, l'explosion donc de la révolution néolithique, comme parfois on en parle encore. Et là, d'un seul coup, on voit une sorte de pathologisation aussi qui accompagne ça. Les populations deviennent plus petites. On pourrait constater, si on avait le temps avec Margarita Tenberg, que ceux qui commencent à manger les dattes connaissent des caries importantes, c'est très sucré les dattes. Donc, est-ce que s'accompagne donc une explosion démographique, mais aussi une explosion des pathologies avec les subsistances venues de la domestication et des plantes et des animaux, Françoise Lemort?
Alors c'est une question extrêmement intéressante et qui a généré un certain nombre de travaux relativement récents. Donc on sait maintenant que les caries existaient avant le néolithique, puisqu'on connaît des cas de caries dentaires sur des squelettes du paléolithique, mais elles ne sont pas très fréquentes. En revanche, ce qui est clair, c'est que le taux de caries a augmenté au cours du néolithique. Alors, les caries dentaires font partie des maladies infectieuses qui se sont développées avec la néolithisation et qu'on peut utiliser, en fait, comme indicateur de l'état sanitaire des populations.
Et oui.
Et il y a un travail qui a été fait très récemment par une étudiante de l'université Lyon 2 qui s'appelle Bérénice Chamel, qui a soutenu sa thèse en septembre dernier, qui porte justement sur l'impact de la néolithisation du Proche-Orient sur l'état sanitaire des populations. Et donc ce travail a porté sur toute la période de la néolithisation du Proche-Orient, depuis les débuts de l'agriculture jusqu'à l'apparition de la céramique. Et ce travail qui a essentiellement consisté en une étude des dents et des os des populations qui vivaient au Proche-Orient à cette époque a permis de montrer que le taux de, enfin la fréquence des maladies infectieuses avait évolué au cours de cette période avec des sortes, pas de manière linéaire, mais avec des sortes de paliers. Ce qui est intéressant, du moins pour les sites qui ont été étudiés, c'est des sites qui se trouvent tous en Syrie, c'est que l'accroissement le plus important du taux de carie dans les populations correspond à l'apparition de l'élevage. Ce qui se produit pendant le néolithique pré-céramique B.
Ah oui, parce que là, ça, maintenant, ça fait très chic, on peut parler du pré-céramique A et du pré-céramique B. Vous me l'avez appris, Jean-Denis Vigne, à vous lire. Bon.
Et ensuite, au moment de l'apparition de la céramique, qui apparaît au Proche-Orient autour de 7000 avant Jésus-Christ, on note à nouveau une augmentation du taux de carie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les caries ne sont pas liées uniquement à l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation est l'un des facteurs qui entraîne les caries. Oui. Mais il y a toute une série de facteurs qui permettent ou pas le développement des caries. Il y a d'abord le potentiel de défense immunitaire de chaque individu. Il y a la résistance des dents à la carie. Il y a l'état de santé général. Toute une série de facteurs qu'il faut prendre en considération, en plus du caractère plus ou moins sucré, on va dire grossièrement,
de la nourriture. D'accord. Alors, Françoise Lemort, malheureusement, il faut passer le pas, hein, puisque l'honneur tourne. Et vous avez aussi fait le voyage à Chypre, vous avez aussi fait le travaillage à Chypre, vous avez trouvé des choses dans les sépultures, et en particulier, pour résumer, en tout cas, c'est ainsi que j'essaie de regrouper, vous avez distingué, il y a deux groupes de pathologies que vous avez pu identifier. Ce sont des parasites alimentaires, et puis d'autres qui sont des parasites qui sont liés directement à l'environnement. Alors, parasite alimentaire, c'est le ténia.
Alors, entre autres, effectivement, le ténia et puis aussi un parasite qui s'appelle Fasciola et qui est responsable de la dystomatose, qui est une maladie du foie et que l'on attrape généralement en consommant des végétaux de bord de rive.
Ah oui.
Alors, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que jusqu'à cette découverte due à des études de paléoparasitologie, qui est une discipline récente, on avait
encore une
oui. On peut dire une sous-discipline. Oui. On n'avait aucun moyen de mettre en évidence ce type de consommation.
Le ténia, le cycle habituel, c'est qu'il commence grosso modo par le cochon et finit sur l'homme.
Le cochon ou le bœuf.
Ou le bœuf, d'accord.
Ou le bœuf.
Et donc, incidence, ça veut dire qu'aussi, par exemple, le bœuf était ou le cochon était mal cuit.
Exactement.
Ça peut être une des raisons.
Il est mal cuit ou grillé, donc assez peu cuit au moment de sa consommation.
Et les maladies et les pathologies qui viennent de l'environnement, quel est le véhicule, quel est le vecteur dans ce cas-là?
Alors, c'est essentiellement lié à des conditions d'hygiène. On peut dire, en gros, que ces populations, bien sûr, ne se lavaient pas les mains avant de manger, oui, vraisemblablement. Et donc, ce sont tous des parasites qui sont liés, on pourrait dire très grossièrement, au fait que ces gens avaient les mains sales.
Oui, d'accord, et qui n'avaient pas cette propreté nécessaire. Alors, il y a aussi des découvertes qui ont été faites, très récentes, là encore je ne sais plus dans quel article que vous m'avez passé, que j'ai pu lire, et qui portent donc sur les indigènes brésiliens en particulier sur et leur manière et leur pathologie. Et on a pu faire des observations intéressantes entre l'état de santé, alors là vous êtes en train de soulever les sourcils, et l'arrivée de la conquête. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Alors effectivement, il y a des travaux qui ont été faits dans le domaine de la parasitologie également, qui ont montré une modification, enfin un changement dans l'état de santé des populations à partir du moment de la conquête. Donc qui peut être lié à un certain nombre de facteurs, hein, soit effectivement à des pathologies apportées par les conquérants, soit une modification du mode de vie des populations locales compte tenu de l'arrivée des conquérants.
Alors comme nous nous acheminons vers la fin, le panorama a été bref parce qu'il y a énormément de détails et tout est en relation. Vous formez à vous trois, avec vos sous-disciplines, hein, vous formez à vous trois des observateurs d'un puzzle qui n'en finit pas parce qu'en plus c'est un graphe, tout est en corrélation. Hein, vous hochez la tête de façon affirmative, hein, mais c'est vrai que tout est connecté, hein, et que sans poterie, ainsi de suite. Bon, bref. Il y a une image qu'il faut évidemment maintenant bannir, c'est l'explosion de la révolution néolithique. Parce que ça régresse, c'est plus lent, parfois ça prend beaucoup de temps. C'est pas très rapidement que on va, par exemple, à partir de l'auroch. Surtout que en plus, il faut des aurochs sauvages de types différents si on est dans le nord de l'Europe et si on est au contraire dans le Moyen-Orient. Donc, c'est, il n'y a pas de chronologie facilement linéaire. Hein. C'est des heures, c'est des développements récents, ou, mais plutôt qui a développement lent, pardon, plutôt que récent. Je crois que c'est l'idée qu'on peut avoir, non?
Oui, Jean-Denis. Le mot de révolution néolithique conserve quand même un pouvoir d'évocation fort à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Parce que il faut pas oublier que ce changement de mode de vie dont on a esquissé les différentes composantes, les multiples composantes, nous en sommes héritiers. Et sur l'ensemble de l'évolution de notre espèce et de ses sociétés, c'est quand même, c'est pas le seul moment fort bien sûr, mais c'est un moment fort qui a engagé l'humanité et la biosphère.
Dans une
évolution,
c'est votre chapitre de conclusion,
un peu inexorable d'une certaine manière et qui pose de vrais problèmes à nos sociétés maintenant. Bon, donc voilà pourquoi cette idée de révolution néolithique n'est pas complètement usurpée. Mais pour nous, c'est évidemment pas la révolution qui nous intéresse. C'est le lent développement, c'est les capacités de ces sociétés à s'adapter à des conditions constamment changeantes de démographie, d'environnement, d'alimentation, d'état sanitaire, etc. Et ça, c'est lent, c'est compliqué. Il faut l'aborder de manière systémique, il n'y a jamais une seule cause. Et c'est tout le boulot passionnant que nous faisons, effectivement, et qui nous stimule un peu plus chaque jour.
Eh ben, il faudra essayer de vous réinviter bientôt, parce que comme les découvertes avancent de façon incessante concernant cette néolithisation, qui d'une certaine manière aussi peut être une catastrophe quand on voit la démographie folle, enfin passons. Merci en tout cas Margaret Attenberg, merci Françoise Lemoré, merci Jean-Denis Vigne pour nous avoir accompagnés dans ce premier rendez-vous de cette semaine dévolue à l'alimentation. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. Aujourd'hui, à la technique Clément Daté. Pour la documentation, Henri Leblanc. La réalisation, Laetitia Coya avec ses questions. Stéphane Deligeorges, Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, reportez-vous bien sûr au site internet franceculture.fr à l'émission Continent Science. Et là, vous avez la possibilité de télécharger cette émission le temps d'une grande année, de l'écouter 1000 jours.